Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Y a-t-il péril sur la transition au Mali après la mise à l'écart dans la journée par le vice-président militaire du président de la transition et du premier ministre? Débat à suivre juste après décryptage sur le Bénin.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Wilfried Léandre Oumbedi, bonjour.
Bonjour madame.
Directeur de la communication à la présidence du Bénin, Patrice Talon a prêté serment dimanche. Il a déclaré que les élections ainsi que les incompréhensions ou les querelles qu'elles génèrent, c'est désormais du passé. Quelles actions va-t-il mener pour tourner la page des tensions qui ont précédé la présidentielle contestée du 11 avril dernier?
Madame, ayant fait cette déclaration, le président Patrice Talon a aussitôt enchaîné pour dire que dans la cohésion, nous devons tous nous mobiliser autour du travail à faire pour assurer durablement la grandeur du pays, notre fierté. Et donc, c'est une façon pour lui de lancer une invite à tous ses compatriotes, d'autant plus qu'un paragraphe plus haut, il a dit « Je serai le président de toutes les Béninoises et de tous les Béninois ». Donc, le chef de l'État montre sa disponibilité à parler, à discuter, à coopérer avec tous les Béninois qui reconnaissent que la République du Bénin est au-dessus de nous tous et qui se comportent dès lors comme des enfants de la République, comme des personnes imbues du sens républicain.
Il y a un mois, il disait ne pas envisager de grâce pour certains opposants emprisonnés. A-t-il changé d'avis?
Le chef de l'État, c'est le primus inter pares. Il peut s'être fâché avec certains des enfants de la famille. Mais en tant que premier responsable de la famille, il se tient toujours prêt à parler avec tous ceux qui voudront parler avec lui. C'est le sens du propos. Il n'y a pas eu de changement d'avis en l'espace de quelques semaines. Il a toujours été disponible pour parler avec ceux qui veulent parler avec lui.
Envisage-t-il néanmoins de gracier certains opposants dans l'optique justement de sortir de la crise politique actuelle?
Vous voyez les crises politiques actuelles. Les Béninois ne voient pas de crise politique. Il y a eu des difficultés à l'occasion des élections, oui, mais il n'y a pas de crise politique au Bénin.
La présence du professeur Robert Dossou, très critique à l'égard du président Talon, à l'investiture de ce dernier, a surpris certains de vos compatriotes. L'ex-président de la Cour constitutionnelle et également avocat de certains opposants a-t-il négocié ou marchandé sa présence à la cérémonie d'investiture du président Talon?
Moi, je ne sais pas si on négocie ou si on marchande sa présence à une cérémonie d'investiture. Monsieur Robert Dossou a occupé d'éminentes fonctions dans la République. Les divergences politiques ne peuvent pas amener à mettre la République entre parenthèses. Donc, s'il a été invité entre autres personnalités, comme beaucoup d'autres également l'ont été, et dont certaines n'étaient pas au pays ou n'ont pu être là, s'il a été invité et qu'il a répondu à l'appel, je ne vois pas quel est l'objectif à vouloir épiloguer sur sa présence ou non à une cérémonie républicaine.
À quoi va ressembler le prochain gouvernement? Est-ce qu'il sera un gouvernement d'union nationale avec l'entrée d'opposants et peut-être aussi d'une personnalité comme le professeur Dossou dans ce gouvernement?
Les gouvernements d'union nationale répondent souvent à la logique de faire concilier les partis dans le contexte de crise. Tout à l'heure, j'ai réfuté le terme de crise que vous avez évoqué et donc je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un gouvernement d'union nationale que, au demeurant, rien ne justifierait dans le contexte béninois.
L'Église catholique, à la veille de l'investiture du président Talon, a exprimé ses inquiétudes sur, je cite, « les clivages de plus en plus prononcés au sein de la classe politique, les multiples arrestations et le climat de méfiance et de peur qui règne au Bénin ». Que répondez-vous?
L'Église fait son travail, elle est dans son rôle. Le rôle du gouvernement, c'est d'administrer la cité suivant les règles convenues ici et les règles convenues qui marchent ailleurs. Ce que le gouvernement fait, encore une fois, c'est de promouvoir le sens de responsabilité, c'est de faire en sorte que l'impunité ne prévale plus au Bénin. Et il me semble du reste que, même au niveau de l'Église, personne ne prône l'impunité. Au contraire, au niveau de l'Église, quand vous avez péché, on vous invite à faire acte de contrition, à vous repentir activement pour bénéficier du pardon. Et dans le projeter au plan républicain, les personnes qui ont pu commettre des fautes doivent répondre de leurs actes devant la justice pour se voir absoudre de leurs fautes ou, s'il y en a, être condamnés, purger les peines et donc ainsi se voir absoudre de leurs fautes. Et s'il n'y a pas de faute avérée reconnue par la justice, être libre de leur mouvement parce que définitivement innocent.
La Commission africaine des droits de l'homme a également exprimé sa préoccupation sur ce qu'elle appelle la dégradation de la situation sociopolitique et le climat de répression accru au Bénin. Et elle a proposé, entre autres solutions, une enquête indépendante et impartiale sur les bavures militaires perpétrées au cours de la période préélectorale. Est-ce que le gouvernement béninois est prêt à ouvrir cette enquête souhaitée par la Commission africaine des droits de l'homme?
Le gouvernement béninois est un gouvernement responsable et il fait ce qu'il a à faire suivant les règles en la matière. L'avis de la Commission africaine des droits de l'homme reste son avis que nous respectons. C'est vous qui parlez de bavure militaire, il n'y a pas eu de bavure.
C'est ce que la Commission africaine des droits de l'homme a dit.
C'est son avis. Les militaires béninois ont été pris à partie par des gens qui les ont canardés parfois de dos. Et ces militaires ne faisaient rien d'autre sur le terrain que rouvrir les routes qui ont été barrées ou couper le pays en deux.
Wilfried Léandre Oumbedi, merci beaucoup.
Merci, madame.
Directeur de la communication à la présidence de la République du Bénin.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Quel avenir pour la transition au Mali après les événements de la mi-journée dans la capitale Bamako? Nous en parlons ce soir avec trois invités. Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali. Monsieur le Premier ministre, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci beaucoup d'être.
Bonsoir aux auditeurs.
Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. Étienne Fakaba Sissoko, bonsoir. Pas encore, me fait-on signe, enseignant-chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale du Mali, et également enseignant à la Faculté des sciences économiques et de gestion à Bamako. Moriba Sissoko, bonsoir.
Bonsoir,
monsieur Sissoko. Bonsoir, monsieur Sissoko. Juriste point focal au Centre d'assistance pour la promotion des droits de l'homme à Kati, au Mali. Merci, messieurs, d'être avec nous. Dans la journée, hein, au Mali, donc, un conseiller spécial du vice-président Assimi Goïta est allé à la télévision publique annoncer la mise hors de leurs prérogatives, c'est une citation, du président Mbandao et de son premier ministre Moctawan. Est-ce que, monsieur le premier ministre Moussa Mara, vous vous attendiez à ce développement?
Je dois très sincèrement avouer que je ne m'y attendais pas, comme beaucoup de nos compatriotes, parce que nous comptions justement sur l'esprit patriotique, le sens des discussions entre le président, son vice-président, les acteurs de l'ex-junte militaire pour nous épargner cela. Parce que ce sont les acteurs de l'ex-junte militaire qui ont mis en place le président et qui ont aussi indirectement au moins mis en place le premier ministre. Donc nous pensions que les discussions entre eux auraient permis de dépasser les éventuelles divergences entre eux. Donc on s'y attendait pas et malheureusement ça nous est tombé dessus, mais il va falloir gérer.
Vous nous direz tout à l'heure, de votre point de vue, quelles sont ces divergences. Et vous, monsieur Sissoko Moriba, il faut que je précise parce que vous êtes deux messieurs Sissoko sur ce plateau. Alors à vous, monsieur Sissoko Moriba, est-ce que vous vous attendiez, vous aussi, à cet épisode, sachant que la crise couvait déjà depuis quand même quelques semaines? On parlait déjà des soldats qui sont partis de l'intérieur du pays pour se concentrer dans la capitale. Donc, on savait que les relations étaient plutôt difficiles dans l'attente du nouveau gouvernement entre les responsables civils, c'est-à-dire le président Mbandao et son premier ministre, d'une part, et de l'autre, les militaires.
Ok, Liliane, même si encore la ligne n'est pas aussi au top, je pense que ce que j'ai quand même entendu nous laisse quand même donner notre point de vue par rapport à la situation qui se vit actuellement dans notre pays. Au fait, comme vous pouvez déjà le constater, il y a à peu près plus de 72 heures déjà, il y avait en tout cas ces rumeurs-là qui circulaient à travers la ville de Bamako et surtout un peu partout du Mali, et à Kati aussi précisément. C'est hier que c'est devenu effectif quand on a quand même aperçu la liste du nouveau gouvernement. Et une heure après, tout simplement, il y a eu en tout cas l'interpellation des autorités et la transition telle que le président de la République, Bandao, et son premier ministre, Mokhtar Wang, ainsi que le secrétaire général de la présidence qui a été interpellé au camp de Kati par l'ex-région Guita, en l'occurrence les Assimi Guita et ses collaborateurs. En fait, c'est très inquiétant, comme vous pouvez déjà le constater après la sortie du secrétaire général, comment dirais-je, du porte-parole, ou encore le conseil du vice-président, qui a fait un communiqué allant un peu dans le sens de mettre un peu à l'écart les autorités de la transition, en l'occurrence le président de la transition et son premier ministre, et qui s'est dit être quand même que la transition va continuer son cours normal et que les gens vont librement à leurs occupations. Tout laisse quand même aujourd'hui, il y a une confusion totale. Une confusion totale parce qu'on ne sait pas encore est-ce que c'est un coup d'État ou encore est-ce que c'est quand même des mises au point. Je ne sais pas trop, mais le temps ou encore les heures qui suivent déterminera un peu tout ça là, clairement, pour que les uns et les autres puissent être au même niveau d'information et comprendre un peu l'évolution de la situation.
En tout cas, pour la France, il s'agit bien d'un coup d'État, ce sont les mots qui ont été employés par Paris, mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore à ce stade du débat. Je crois que M. Étienne Sissoko nous entend. M. Sissoko, vous m'entendez? Non, toujours pas. Alors, M. Moussa Mara, avant d'entrer dans les divergences qui ont pu justifier cette tension, comment réagissez-vous à l'attitude des populations maliennes? On n'a pas vu une mobilisation ou des manifestations pour ou contre la junte militaire ou pour ou contre les responsables civils, à savoir le président de la transition et son premier ministre. Comment expliquez-vous cela? Est-ce que cela exprime une certaine lassitude, une résignation ou plutôt une indifférence de la part des Maliens?
Non, il y a déjà eu une manifestation cet après-midi à la Bourse du Travail.
Je suis en retard sur l'information alors.
Voilà, il y a une manifestation. Mais vous savez, si vous regardez, l'essentiel des acteurs politiques ne se sont pas prononcés. Ce sont quand même les acteurs politiques qui sont un peu les leaders d'opinion et même la société civile. Donc les leaders importants du pays, des forces vives, ne se sont pas encore prononcés.
Pourquoi?
Les uns et les autres sont un peu dans l'expectative. Ben, va savoir pourquoi. Ben, ce n'est pas notre
cas. Quelle est votre explication?
Nous,
vrai que nous en avons contacté pas mal, même au sein du M5, qui n'ont pas souhaité participer à ce débat, voilà, les anciens ministres du pouvoir Keïta.
Nous nous sommes prononcés très clairement hier en condamnant le coup de force qui est intervenu et en demandant à ce que le président, son premier ministre et leurs collaborateurs soient libérés et réintégrés à leurs fonctions parce que c'est ce que nous pensons être positif pour notre pays aujourd'hui. Pourquoi il va falloir demander aux uns et aux autres pourquoi ils ne s'expriment pas? Mais moi, je pense que quand c'est des questions de principe, il faut vraiment prendre des positions de principe. Même si nous savons que nous ne sortirons pas de cette crise sans négociation, il ne faut pas que ce soit la victoire d'une partie contre une autre partie. Par définition, une transition est une période d'exception où on doit essayer d'être le plus inclusif possible. Chacun a sa place, mais les principes que nous nous sommes normalement dotés, dont nous nous sommes normalement dotés en septembre dernier, il faut qu'on puisse les respecter. Le président de transition a prêté serment, il a assis sa légitimité, il est reconnu comme tel. Le gouvernement aussi a commencé à travailler. Il vient récemment de s'ouvrir à d'autres forces politiques. Essayons de faire en sorte que la transition avance. Voilà, c'est un peu ça notre posture. Maintenant, pourquoi les uns et les autres ne se prononcent pas? Peut-être qu'ils attendent un peu l'évolution de la situation. On verra bien. Mais je pense que ça va bouger. On ne peut pas rester en l'état.
Merci. Alors, on parlait hein, tout à l'heure des divergences. Les militaires ont accusé dans le communiqué M. Sissoko, signé du vice-président, l'incapacité, selon ce communiqué, des deux hommes à répondre à la crise sociale en cours. Et je rappelle que la grève de l'UNTM, le principal syndicat des travailleurs du Mali, lancé la semaine dernière, se poursuit. Est-ce que cette raison peut, d'après vous, justifier ce à quoi on a assisté aujourd'hui ? Qui apparaît comme un putsch. Allô, M. Sissoko ?
Contenu.
Allô ?
Quand on prend le contenu de ce communiqué, c'est que nous voyons clairement ce qui s'est passé. Le président, le vice-président a été très clair. Il dit peut-être que face à l'incapacité de faire face à la grève de l'INTM et surtout, le fait qu'il se voit aujourd'hui être une violation de la charte de la transition, c'est peut-être ce qui les a poussés peut-être à réagir ainsi. Bon, parlons un peu de la grève de l'INTM, comme vous le savez déjà, il y a à peu près une première semaine qui s'est passée où vraiment le pays était totalement paralysé. Et nous avons vu aussi cette deuxième tranche de cette grève qui commence. Et peut-être, on va aller peut-être à une grève illimitée la semaine prochaine. Ce qui, aujourd'hui, est beaucoup plus inquiétant pour les Maliens. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, même nous n'avons pas accès à nos banques, surtout de façon libre. Ce qui fait que vraiment les gens sont vraiment dans une situation très déplorable dans ce sens.
Merci.
Et parlons aussi de la violation du charte.
Monsieur Sissoko, vous reprendrez vos explications dans un tout petit instant.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Y a-t-il péril sur la transition au Mali ? Nous en débattons ce soir au regard des événements que le pays a connus cette mi-journée. Et c'est avec Moriba Sissoko, juriste, point focal au Centre d'assistance pour la promotion des droits de l'homme à Kati, et l'ancien Premier ministre malien Moussa Mara, qui est également avec nous pour cette émission. Et pour l'instant, on n'arrive pas à entrer en contact avec l'enseignant-chercheur Étienne Fakaba Sissoko en ligne de Bamako. Monsieur Sissoko, je vous redonne à nouveau la parole hein, pour terminer votre analyse. Vous disiez que c'est vrai que la situation sociale est en ébullition avec cette grève de l'UNTM et c'est l'une des raisons avancées par le conseiller du vice-président de la transition pour justifier leur intervention.
Oui, oui. Justement, aussi, j'allais toucher un peu à mon deuxième point de l'intervention sur toujours l'esprit du communiqué fait par le conseil du vice-président, qui touche un peu sur la violation de la charte de la transition. Pour le vice-président, pour ce qui concerne la nomination du premier ministre, lui, il n'a pas été non seulement concerté, et sa reconduction à ce même poste, il n'a pas été aussi contacté. Et même à la mise consulté et même à la mise en place du nouveau gouvernement, ils n'ont pas été consultés. Et pourtant, lui, il est en charge de la défense et de la sécurité. Donc, comment se fait-il que ceux qui font l'objet, les deux personnalités de l'ancienne jeune qui font l'objet de cette crise-là, qui est Sadio Camara, respectivement ministre de la Défense et Bodigo Kone, ministre de la Sécurité, relève totalement de sa compétence. Donc, du coup, on parle quand même sur ces deux.
Donc, vous voulez dire que de votre point de vue, M. Sissoko, le fait que les militaires aient décidé de mettre fin aux fonctions du président de la transition et du Premier ministre, au-delà de ce qu'ils ont avancé comme raison, c'est-à-dire la crise sociale, la situation politique avec cette mise à l'écart de ces militaires dont vous parliez, justifiait aussi qu'ils en arrivent là ?
Bon, l'élément fondamental pour moi, ça serait peut-être l'éjection, en tout cas, de ces deux-là dans le gouvernement qui a fait soulever tout ça-là. Sinon, peut-être avec la grève du BNTM, avec la mise en place, ça allait être géré par le nouveau gouvernement en question. Mais parce qu'il y a eu quand même ces deux personnalités qui ont été enlevées du gouvernement, côté, vraiment, les militaires ont pris quand même une autre position.
Merci
et
beaucoup.
Moi, je fais quand même avancer comme analyse de ce que j'ai vu sur la situation.
Et on me fait signe, je crois, M. Étienne Fakaba Sissoko est en ligne. M. Sissoko, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, enseignant-chercheur au Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale du Mali. Je ne sais pas si vous avez suivi en partie la position de l'autre M. Sissoko, plutôt Moriba, sur les raisons qui ont pu justifier cette crise politique ou l'accélérer. Est-ce que pour vous, même si violation de la charte de la transition, il y a eu, comme le disent, comme le dit le vice-président, cela aurait justifié cette intervention?
Non, non, il est évident aujourd'hui que c'est l'éviction des deux, le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité, qui est à la base de tout ce remous-là. Et deuxième élément, c'est le manque de concertation qui a prévalu dans la
composition du nouveau gouvernement et avant cela, la reconduction du Premier ministre Moctawan.
Exactement, la reconduction du Premier ministre et la mise en place du gouvernement. Il y a eu un manque de consensus, il y a eu un manque de concertation et on a compris surtout que le président de la transition voulait reprendre les choses en main. Parce que depuis le début de cette transition jusqu'à maintenant, depuis sa désignation jusqu'à maintenant, on a eu l'impression en réalité qu'il suivait une tendance, qu'il suivait une cadence qui était dictée, mise en œuvre par l'ancienne junte, l'ancienne CNSP. Donc aujourd'hui, il a voulu jouer à un jeu qui était certes justifié parce que le président de la transition, il doit reprendre les choses en main, mais c'est un jeu. Malheureusement, il n'avait pas la force ou
D'accord. Donc vous voulez dire que c'est une lutte. C'est une lutte de pouvoir entre, d'une part, les responsables civils et ceux militaires qui sont à la tête de la transition et que le rapport. Est-ce que vous pensez que le président Bandao et le premier ministre Moctawan ont suffisamment, si je vais dans votre logique, évalué le rapport de force avant de se lancer dans cette lutte d'influence?
Très honnêtement, non. Parce que on ne peut pas aujourd'hui envisager de faire un gouvernement et dans la même dynamique enlever deux poids lourds du CNSP. Ce n'est pas envisageable. Même si ceux qui les ont remplacés sont également des militaires, c'est des militaires qui appartiennent à d'autres corps. Ce sont des bérets verts. Et les deux qui ont été enlevés sont issus de la garde nationale. Et donc, dans ce gouvernement-là, de Moctawan, il n'y avait aucun membre de la garde nationale. Et pour qui connaît les clivages qu'il y a entre les différents corps pour la lutte, pour la conquête du pouvoir, pour l'exercice du pouvoir, on imaginait très facilement que la situation ne pouvait déboucher qu'à cela.
Est-ce que, vraiment, en quelques mots, M. Sissoko, et puis on écoutera l'ancien Premier ministre Moussa Mara, est-ce que c'est un peut-être prolongement de la crise qui a opposé béret vert et béret rouge sous le capitaine Aya Sanogo, où il y a eu un coup d'État contre l'ancien président et défunt ATT, et suivi d'un autre contre-coup d'État? Est-ce que c'est un prolongement de cette crise-là?
Non, je ne crois pas qu'il y ait un lien véritable entre les deux crises. Parce que ceux-là qui ont fait le coup d'État de 2012 sont ceux-là même pour la plus grande partie qui sont encore dans ce même mouvement-là. Par exemple, le président de la transition, le président du Conseil national de la transition, Malick Diaw, faisait partie des poussistes de 2012 et il est encore avec l'équipe actuelle. Donc, même ceux-là qui sont venus, qui sont des bérets verts également, sont des membres influents du CNSP.
Merci.
Même s'ils n'ont pas le même poids au sein du CNSP que Camara et Koné, ce sont également des poids lourds. Et pour preuve, le nouveau ministre de la Défense occupait le poste de secrétaire général du ministère de la Défense pendant tout ce temps-là.
Merci.
Donc, je crois que c'est une nouvelle lutte. C'est une nouvelle lutte. C'est un nouveau jeu d'équilibre qui s'est amorcé. Et malheureusement, Bandao et Moctawan perdent leur plume dans cette lutte-là.
Merci, Étienne Sissoko. Je crois qu'avec votre, même avec votre, vous avez rattrapé votre temps de parole. Alors, Monsieur Moussa Mara, est-ce qu'il y a réellement, on parlait tout à l'heure de cette lutte d'influence entre pouvoir civil et pouvoir militaire. Est-ce qu'il y a aussi une autre lutte d'influence entre la Russie et la France à Bamako? Quelle est la réalité? Parce qu'on a beaucoup parlé de cette volonté de deux anciens ministres militaires limogés de se rapprocher de Moscou, au contraire des responsables civils, Mokhtawan et Bandao, qui seraient plutôt favorables à ce que le Mali reste plutôt sous l'influence de la France. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quelle est la réalité?
Très sincèrement, je pense que c'est plutôt des arguties qui sont utilisées par quelques influenceurs sur les réseaux sociaux, quelques pourfendeurs de la transition, quelques chercheurs de déstabilisation de la transition pour se positionner. Moi, je n'ai vu aucune preuve concrète de ces affirmations. C'est pourquoi je me garderai bien de les commenter. Je pense qu'il faut que...
Mais on a parlé de beaucoup de contrats militaires d'armement qui ont été passés avec la Russie au détriment de la France.
Madame, je vous assure que c'est absolu. En tout cas, je dis pas que c'est faux, mais je dis qu'il n'y a pas de preuve. Si les gens disent qu'il y a eu des contrats qui ont été engagés, qui ont été annulés ou qui voulaient être annulés, ben, que les gens donnent les preuves. Je pense que sur cette question de la France, de la Russie, de leur influence supposée dans nos pays ou de leur lutte d'influence, il ne faut pas que nous nous laissions distraire par cela. Il faut que nous nous concentrions sur nous-mêmes et que nous fassions face à nos problèmes. Je pense que sur cette question de transition, il faut que nous ayons une position de principe. Si nous essayons à chaque fois de justifier des actes de ce type, ben, je crains que les lendemains soient des lendemains de déstabilisation pour notre pays. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un n'est pas content de son poste ou de son limogeage à son poste, ben, la personne va utiliser la force.
Et ça, et quand vous parlez de principe, est-ce que si on part aussi sur le principe, est-ce que pour vous, l'Union africaine devrait sanctionner les responsables militaires?
On n'en est pas là pour l'instant. Vous savez, on est déjà, la CEDEAO est dans nos murs et la CEDEAO,
le médiateur Goodluck Jonathan est arrivé.
On va rencontrer les uns et les autres. Je pense que nous sommes encore dans l'étape où la raison va prévaloir et peut prévaloir. Il y a déjà de la médiation interne. Il y a beaucoup d'acteurs de la société civile qui sont en train de parler entre les différents protagonistes. Moi, je privilégie cette démarche d'appel à la raison et d'amener les uns et les autres à pouvoir vraiment se parler et que la transition continue. Mais je dis, on ne peut pas accepter, il ne faudrait pas accepter qu'on puisse comme ça mettre à bas des organes de la transition, des institutions et qu'on puisse avancer comme si de rien n'était. Sinon, tous les deux mois ou tous les trois mois, on serait en train de reprendre la transition et ça, vraiment.
Donc vous êtes pour un rétablissement dans leur fonction du président Bandao et du premier ministre Mokhtawan?
Je pense qu'il faut le faire. Il faut qu'on les rétablisse à leur fonction et qu'on voit comment on va pouvoir avancer tous ensemble, y compris avec l'ancienne junte. Et je pense qu'il y a de la marge pour les discussions par rapport à cela.
Merci.
Aussi bien en utilisant les dynamiques internes qu'en utilisant les partenariats externes, au premier rang desquels la CEDEAO. Avant de parler de l'Union africaine, c'est d'abord la CEDEAO à qui revient cette question au niveau extérieur. Je pense qu'il faut qu'on privilégie ces discussions qui vont commencer à partir d'aujourd'hui par le médiateur pour sortir de la crise par le haut. Mais on ne doit pas accepter des faits accomplis de ce type. Sinon, vraiment, je peux vous assurer que la transition, elle sera chaotique et elle risque de déboucher sur autre chose de plus
Merci,
grave que
Monsieur
ce qu'on constate.
Moussa Mara, justement, dans la dernière partie, on abordera la question de l'avenir, en quelques mots, de cette transition. Et vraiment, très brièvement, Monsieur Moriba Sissoko, quelle est la réalité de cette lutte d'influence supposée entre les deux camps qui étaient à la tête de la transition, c'est-à-dire les militaires d'une part et les civils concernant l'influence aussi supposée de la France ou de la Russie? Est-ce que vous avez plus d'informations?
Bon, effectivement, je rejoins l'ancien Premier ministre Mara par rapport à ce qu'il a dit, que nous devons quand même dépasser un peu ces
ce stade de réflexion entre la Russie et la France. Moi, je pense que ces deux-là sont des partenaires du Mali. Peut-être l'un joue un rôle beaucoup plus important en termes de présence et surtout en termes d'élection, en termes de politique. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de tous ceux qui peuvent quand même aider le Mali à sortir de là. Que ce soit la France, que ce soit la Russie, je pense que c'est des partenaires privilégiés pour accompagner en tout cas cette période de transition. Voilà un peu au niveau quand même de la divergence entre les deux, c'est-à-dire les personnalités civiles et les personnalités politiques qui sont à la tête de l'État aujourd'hui. Je pense que les militaires viennent de montrer quand même qu'ils ont la même mise sur cette transition. Bien vrai qu'il y a un
beaucoup plus que les personnalités civiles.
Oui, plus que les personnalités civiles, je dirais beaucoup plus qu'ils ont plus d'influence sur les personnalités civiles. C'est ce qu'ils nous ont montré déjà. Parce que s'il faut tout le temps quand même ramener ces personnalités-là ici au cas de Kati et les interpeller à tout moment, s'il y a question de divergence, je pense qu'il faudra quand même revoir un peu cette copie. Mais ce que je peux aussi dire, parce qu'en réalité...
Pour terminer, s'il vous plaît, en deux mots.
Ça a commencé par... un comité. Comité pour le salut du peuple de la CNSP. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent aussi continuer à jouer leur rôle dans la réussite de la transition. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette influence-là.
Merci beaucoup, M. Moriba Sissoko. Et dans la dernière partie de cette émission, nous parlerons de l'avenir de cette transition qui aurait dû s'achever par une élection présidentielle en fin février prochain.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quel est désormais l'avenir de la transition au Mali? La nouvelle crise que le pays traverse en ce moment va-t-elle compromettre le calendrier électoral? Et nous en parlons dans cette dernière partie de cette émission avec Moriba Sissoko, juriste, point focal au Centre d'assistance pour la promotion des droits de l'homme à Kati, Étienne Fakaba Sissoko, enseignant-chercheur au Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale au Mali, et l'ancien Premier ministre malien Moussa Mara. Alors, je commence par vous, M. Sissoko. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la machine de la transition est grippée et que cela pourrait compromettre la prochaine présidentielle de fin février prochain?
Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui...
Oui, je parlais à M. Sissoko, l'enseignant, s'il vous plaît. C'est vrai que je n'ai pas précisé. Voilà. La machine est-elle grippée? Peut-on craindre sur la suite de la transition? Peut-on avoir des craintes sur la suite de la transition?
La machine est grippée, bien entendu. Parce que c'est un coup dur aujourd'hui pour tout le processus, pour tout le programme d'action gouvernementale qui avait été mis en place. Et aujourd'hui encore, on va se mettre certainement dans des concertations en vue de trouver de nouvelles solutions. Et c'est pourquoi moi, je ne suis pas totalement d'accord avec M. le Premier ministre qui va rétablir Mokhtar Ouane et Bandao dans leurs fonctions, pour la simple raison que pour leur crédibilité, pour leur autorité, c'est même pas bon pour eux de revenir dans leurs fonctions dans ces conditions. Parce que ce qu'il ne faut pas se voiler la face, c'est que les militaires sont dans le jeu politique aujourd'hui. Et il semble que ces militaires-là sont incontournables. Comment, dans ce climat de méfiance, dans ce climat de défiance qui a été instauré depuis hier soir jusqu'à maintenant, comment est-ce que le président Bandao ou le premier ministre Mokhtar Ouane pourrait envisager de travailler avec un militaire?
Mais s'ils ne sont pas rétablis dans leurs fonctions, est-ce que le temps de négocier encore pour se mettre d'accord sur un nouveau président à transition, sur un nouveau Premier ministre, ne va pas davantage remettre en cause la transition et peut-être même renvoyer cela au calendrier grec?
Je suis d'accord avec vous, c'est pourquoi je pense d'ailleurs que le processus est grippé. Ce qui est sûr, c'est que le calendrier ne sera pas respecté. Et si vous avez suivi l'intervention du porte-parole du vice-président à la télé, le calendrier électoral est déjà défini dans le programme d'action gouvernementale. Mais lui, il parle de la tenue des élections en 2022, sans préciser de date. Donc ça veut dire que lui-même, il nuance la tenue des élections à la date prévue, en tout cas, par le programme d'action gouvernementale.
Merci. Donc, fin février...
Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de très rapidement très rapidement mettre en place, choisir de commun accord avec les forces vives de la nation, avec tous ceux qui sont en train de s'impliquer aujourd'hui pour trouver une solution, de mettre en place un Premier ministre consensuel qui va concerter tout le monde pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale.
Merci. En une minute, donc, pardon, M. Sissoko, il faut laisser le temps aussi aux autres de donner leur mot de conclusion. M. Sissoko Moriba, et vous, est-ce que vous partagez la proposition de M. Sissoko? Et est-ce que vous pensez que, de toute façon, on ne peut plus respecter le calendrier de départ de la fin de transition?
Ok, moi je me partage entre le Premier ministre et Etienne Fakaba, leur idéologie, parce qu'en réalité, on ne peut pas rétablir totalement un Moktarwan et Bandao dans leurs fonctions. Mais ce qu'on peut faire de l'acceptable, c'est d'établir Bandao et de faire revenir encore Bandao comme président de la transition. Ça, on ne peut pas, c'est quand même une chose qui peut un peu sauver le processus.
Et remplacer le Premier ministre.
Non, le remplacement du Premier ministre est indéniable. On ne peut plus revenir sur cette question. En tout cas, il faut changer le gouvernement, il faut revenir pour ramener un nouveau gouvernement en place pour gérer les affaires. Mais Bandao doit rester en place. Parce que quand on fait enlever Bandao aujourd'hui, ça va mettre tout le processus vraiment à terre. Et on sera obligé encore de...
Donc pour vous, le gouvernement nommé par Moktarwan... Le gouvernement mis en place lundi par Moktarwan est d'office mort, il est enterré?
Voilà, je dirais peut-être que c'est mort-né. C'est un gouvernement qui est mort-né, parce qu'en réalité, ce gouvernement n'aura peut-être pas l'occasion de travailler, en tout cas après cette période-là.
Merci.
Donc du coup, la démission de Moktarwan s'avère aujourd'hui nécessaire. Il faut qu'il démissionne et qu'on renomme encore un autre Premier ministre qui va former dans les jours à venir son gouvernement et faire un gouvernement d'inclusivité qui met non seulement la réinsertion en tout cas de ces deux qui ont été éjectés du gouvernement Moktarwan 2. Donc, ceci doit revenir, les deux gardes doivent revenir pour constituer un lot complet du CNSP encore au sein du gouvernement.
Merci, Monsieur Sissoko. Monsieur Sissoko, je suis désolé. On va laisser une minute au Premier ministre Mara aussi pour son mot de conclusion. Monsieur Mara, quelle est la piste la plus adéquate à la situation actuelle pour sauver la transition?
Mais quand j'écoute les deux autres co-débatteurs et que je me mets dans leur logique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on revient en arrière, on essaie de déterminer un nouveau président, un nouveau premier ministre de concertation, je vous assure qu'on sera parti pour des mois et des mois. Mais surtout, ce qui serait grave, ça veut dire qu'on ferait des militaires les véritables patrons du pays, si c'est beaucoup plus qu'avant. Et ça veut dire que tous les jours, et le nouveau président et le nouveau premier ministre regarderont à 10 000 fois avant de poser un pas.
En quelques mots, monsieur le Premier, c'est quoi la solution, s'il vous plaît, en quelques mots?
Il faut réintégrer les autorités de transition dans leurs fonctions et les accompagner dans la conduite de la transition. Avant-hier seulement, ces autorités étaient reconnues par les militaires. Hein. Je pense que la question, c'est uniquement l'éviction des deux membres de l'ex-CNSP.
C'est-à-dire qu'eux aussi reviennent dans le gouvernement?
Ce sont des choses qui peuvent être discutées. Eux, ils souhaiteraient garder leur poste. Ce sont des choses qui peuvent être discutées. Toute autre solution que la réintégration des organes de transition dans leurs fonctions amènerait le Mali dans l'incertitude totale et de manière chaotique. Que Dieu nous en garde.
En tout cas, vos trois visions montrent bien que la solution n'est pas pour demain, puisque M. Sissoko, lui, estime qu'il faut remplacer le président de transition, de même que le Premier ministre. M. Moriba Sissoko estime qu'il faut en remplacer un seul, uniquement le Premier ministre. Et vous, vous dites, M. le Premier ministre, qu'il faut maintenir le statu quo en laissant les deux personnalités en place. En tout cas, messieurs, merci beaucoup d'avoir pris part à ce débat. Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, Moriba Sissoko, juriste point focal au Centre d'assistance pour la promotion des droits de l'homme à Kati, et Etienne Fakaba Sissoko, enseignant-chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale du Mali. Vous êtes également, monsieur Etienne Sissoko, enseignant à la Faculté des sciences économiques et de gestion à Bamako, au Mali. Merci de retrouver cette émission ce soir en rediffusion à 23h, heure de Paris. Merci à Hugo Vallière et à Edouard Nying qui m'ont aidé à vous proposer cette émission. Bonsoir.